RFI, 10h à Paris, 8h en temps universel. Et l'info avec Gaëtan Planet.
Bonjour à tous. Moins figé, moins confus, plus audible aussi. C'est un Joe Biden visiblement revigoré qui est monté sur scène hier soir en meeting en Caroline du Nord. Et le président américain l'assure, il est prêt pour un second mandat, sauf que de plus en plus de voix, démocrates notamment, commencent à en douter sérieusement après sa prestation pour le moins ratée face à Donald Trump lors d'un débat télévisé. L'heure n'est plus au débat mais au silence électoral en France qui votera demain pour le premier tour des élections législatives, tandis que l'Iran dépouille et se dirige vers un second tour pour la présidentielle. L'AFD, le parti allemand d'extrême droite anti-migrants, est lui en congrès dans l'ouest du pays pour essayer d'étendre son influence. Et puis on va parler de sport aussi avec le début du Tour de France de cyclisme et le début aussi de la phase éliminatoire de l'Euro de football. Ce soir, Allemagne-Danemark, 8e de finale, ce sera à suivre en direct sur RFI. À servir son pays en choisissant de ne pas le diriger, c'est l'équation que le New York Times propose à Joe Biden après le débat qu'il a opposé à Donald Trump jeudi soir à la télévision. Un débat raté, tout le monde ou presque s'accorde pour le dire, alors que le président américain, 81 ans, est apparu confus, perdu, parfois inaudible, relançant de plus belle les critiques sur son âge, critiques que n'hésitait déjà pas à agiter ses adversaires, mais maintenant ce sont ses soutiens qui s'y mettent, comme avec cette tribune, publiée donc dans le journal pourtant réputé proche des démocrates. Des voix alliées se mettent à appeler de leur vœu un désistement de Joe Biden afin de lui trouver un autre candidat plus apte pour la présidentielle de novembre. Alors lui reconnaît à demi-mot une prestation pour le moins chancelante, mais il n'a visiblement pas du tout l'intention de jeter l'éponge. Correspondance depuis New York de Lubna Naki.
Thank you, North Carolina.
Face à des partisans venus le voir en Caroline du Nord, Joe Biden semblait avoir repris du poil de la bête. Il a retrouvé sa voix et le fil de ses pensées.
Nous allons protéger et préserver notre démocratie.
On était bien loin de l'image du candidat confus et hagard qu'il a présenté face à Donald Trump quelques heures auparavant. Le président démocrate a d'ailleurs répondu aux nombreuses critiques qui ont suivi sa faible performance.
Je sais que je ne suis plus un jeune homme. Je ne marche plus aussi facilement. Je ne parle plus aussi élégamment. Je ne débat plus aussi bien. Mais je sais au moins dire la vérité. Je sais discerner le bien du mal et je sais comment faire le job.
Une attaque directe adressée à son adversaire républicain qui a multiplié les mensonges lors de ce premier débat de campagne. Tout en reconnaissant son mauvais passage jeudi soir, Joe Biden a assuré « Je vous promets que je ne serais pas candidat si je n'étais pas persuadé de pouvoir faire ce travail. » Lubna Naki, New York, RFI.
On se dirige vers un second tour en Iran au lendemain de la présidentielle. Deux candidats vont a priori se qualifier pour la suite du scrutin d'après les résultats partiels basés sur le dépouillement de 80% des bureaux de vote. Le réformateur Massoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Ils sont en tête. Si ça se confirme et qu'aucun des deux n'obtient la majorité des suffrages, eh bien le deuxième tour aura lieu vendredi prochain. Les bureaux de vote ont eux ouvert il y a une heure maintenant en Mauritanie, là aussi pour le premier tour de l'élection présidentielle. Un petit peu moins de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes avec le choix de la continuité incarné par le président Mohamed Ould Sherrazwani ou celui du renouveau représenté par les 6 autres candidats qui appellent tous au changement. Parmi eux, le député Biramda Abeid, militant des droits de l'homme, arrivé deuxième des deux dernières présidentielles, ou encore Mohamed Lemine Elouavi, haut fonctionnaire du Trésor mauritanien. En France, le premier tour des législatives, c'est demain, mais on vote dès ce samedi dans certains territoires comme Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guyane ou encore la Polynésie française. La participation s'annonce forte. La preuve, le nombre de procurations a explosé. Plus de 2 millions pour les deux tours, le deuxième étant prévu le 7 juillet. La France attend le nom de ses députés. Elle attend aussi toujours les conclusions de la mission de l'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron pour l'Afrique concernant les nouvelles modalités de la présence militaire sur le continent. Mais déjà du changement avec la création d'un commandement pour l'Afrique au sein de l'armée, un petit peu à l'image d'ailleurs de ce qui se fait aux États-Unis. Et ce commandement français, c'est le général de brigade Pascal Yanni qui en prend la tête. Le journal officiel l'a confirmé cette semaine, alors que Paris prévoit de ne conserver que quelques centaines d'hommes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, dans le cadre de partenariats rénovés, plus discrets. Alors pourquoi cette nouvelle entité dans les rangs de l'armée française? Question posée à Niagale Bagayoko, docteur en sciences politiques et présidente de l'African Security Sector Network.
Ça apparaît comme l'aboutissement d'une réflexion qui a été longue, hein, puisque ça fait déjà 3 ans hein, que le président de la République a annoncé une réorganisation du dispositif militaire français en Afrique. Il a nommé, on sait, un envoyé spécial à travers Jean-Marie Bockel, chargé de discuter avec les capitales concernées de ce redéploiement. Ce que ça évoque en réalité, c'est une façon de confirmer le fait que l'Afrique reste prioritaire dans la conception stratégique et géopolitique de son environnement international, tout en visant à faire que cette importance ne soit pas visible à travers une présence permanente, puisque on voit qu'il y a une forte mobilisation, notamment des opinions publiques africaines, pour protester contre cette présence.
Voilà pour l'avis de Niagele Bagayoko. Elle était interrogée par Pierre Firsion. Le bilan s'alourdit au Kenya après la répression des manifestations de mardi pour s'opposer à de nouvelles hausses de taxes. Human Rights Watch parle de 30 morts, toujours aucun bilan par contre du côté des autorités. En Allemagne, les 600 délégués de l'AFD, le parti d'extrême droite anti-migrants, se réunissent ce week-end en congrès dans l'ouest du pays. Un parti qui a fait un petit peu moins qu'espéré aux européennes, c'est vrai, mais qui a quand même devancé le SPD du chancelier Olaf Scholz après, avec près de 16% des voix, son meilleur score depuis sa création. Reste quand même pour l'AFD des disparités régionales. Il est très bien implanté dans les régions de l'ex-RDA, un petit peu moins dans l'ouest du pays, d'où ce choix décène en Rhénanie pour l'organisation de ce congrès afin de tenter de gagner du terrain. C'est ce que nous dit Hans Stark, professeur de civilisation allemande à la Sorbonne.
Essen fait partie du land de la Rhénanie de Westphalie. C'est aujourd'hui un land qui est gouverné par les chrétiens-démocrates. Des chrétiens-démocrates qui s'en vont debout contre l'AFD. En plus, Essen est quand même, enfin la Ruhr, c'est un ancien fief du Parti social-démocrate. Même si le SPD, ça fait maintenant quelques années qu'il n'est plus au pouvoir dans ce land, il y a quand même encore des structures ouvrières qui sont restées fidèles au SPD et pour qui ce congrès est une provocation. La ville de Essen a essayé d'interdire ce congrès, n'a pas eu gain de cause, et donc par conséquent, on annonce pour ce week-end 100 000 manifestants qui vont essayer, ne peuvent pas empêcher le congrès, mais en tout cas de rendre son déroulement plus compliqué. Donc ça va être assez sportif. On ne parle pas du tout du contenu de ce congrès, ni du programme de l'AFD. On parle avant tout du problème sécuritaire que cela pose.
Des propos recueillis par Daniel Valo. Un petit peu plus de 2 400 000 habitants en Albanie, soit près de 420 000 personnes en moins qu'il y a 13 ans. C'est le résultat du dernier recensement national publié hier. Et ça s'explique surtout, c'est ce que nous dit le rapport, en grande partie par l'émigration. 50 000 Albanais quitteraient leur pays chaque année. Le Tour de France démarre aujourd'hui, mais pas en France. C'est de Florence, en Italie, que les cyclistes s'élanceront tout à l'heure pour cette 111e édition. L'arrivée, elle, ne se fera pas à Paris comme de coutume. Jeux Olympiques oblige, ce sera à Nice que la Grande Boucle s'achèvera le 21 juillet prochain. La France vibre donc pour le cyclisme et l'Arabie Saoudite aimerait bien en faire autant. Après le golf ou le football, le Royaume serait prêt à dépenser 250 millions pour créer cette fois une ligue professionnelle de cyclisme. Le projet baptisé Wine Cycling mêlerait certaines courses existantes à de nouvelles et prévoit aussi de nouvelles sources de revenus pour les équipes. Ça ne fait d'ailleurs pas l'unanimité parmi les organisateurs du Tour de France, Nicolas Fellmann.
Cette année encore, pour aligner ses coureurs sur le Tour de France, le manager de l'équipe Groupama FDJ, Marc Madiot, n'a pu compter que sur ses sponsors.
Notre financement est uniquement nos partenaires financiers liés à l'équipe. Nous, le Tour de France nous coûte de l'argent, hein, nous en rapporte pas. Hein.
Car sur le Tour de France, comme sur les autres courses, l'essentiel des revenus est aujourd'hui capté par les organisateurs. Le projet saoudien propose de mieux redistribuer les recettes de sa future ligue aux équipes. Une partie des droits télé pourrait leur être reversée. Certaines courses pourraient même devenir payantes. D'après le journal Les Échos, une douzaine d'équipes seraient prêtes à rejoindre le projet à partir de 2026. Ce ne sera pas le cas de la formation Total Energy, son manager Jean-René Bernaudot.
On parle beaucoup de millions, mais on ne parle pas beaucoup de développement et d'éducation dans la société. Le business dans le sport doit être une conséquence de quelque chose de vertueux. On a des États qui sont arrivés. Quand des États arrivent dans le sport, il n'y a plus de règles économiques. Il y a à vouloir écraser. Que derrière, il y a des stratégies qui ne me plaisent pas.
Le projet saoudien ne devrait pas non plus plaire aux organisateurs du Tour de France, puisque cela représenterait inévitablement un manque à gagner. L'Union cycliste internationale, l'UCI, ne s'est pas positionnée officiellement, même si son président se dit cependant ouvert à une réforme du circuit.
Et puis le top départ des huitièmes de finale à l'Euro de football. La Suisse et l'Italie ouvriront le bal à 16h, temps universel. Et puis ce sera aux autres Allemands de tenter de se qualifier contre le Danemark. Un match à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Rendez-vous à 19h. En attendant, il est 10h10 à Paris. Merci d'être avec nous.